Bonjour Stanislas Vassac.
Bonjour Maïlys Bessery.
Bonjour, il est 12h30 sur France Culture et tout de suite on va retrouver le journal de la rédaction.
Nicolas Hulot présente son plan biodiversité cet après-midi. Parmi les objectifs prioritaires, la lutte contre l'artificialisation des sols qui concerne aujourd'hui près de 10% du territoire français. Les explications de Véronique Robérotte dans un instant. Emmanuel Macron au Nigeria pour promouvoir la vitalité de la culture africaine. Le président qui veut donner une image positive de l'Afrique nous dira Frédéric Seyss. Plusieurs victimes ou proches des victimes de l'attentat du Bataclan déposent un recours contre le ministère de l'Intérieur. Elles ne comprennent pas pourquoi les soldats de la force Sentinelle ne sont pas intervenus le 13 novembre au soir. Dossier suivi par Florence Turne. Aux États-Unis, Donald Trump remet en cause la politique de discrimination positive, l'affirmative action en faveur des minorités. Plusieurs directives viennent d'être annulées, notamment dans le domaine éducatif. Les précisions de Marie-Pierre Véraud. Nous évoquerons aussi la Pologne, avec ce bras de fer entre la présidente de la Cour suprême et le pouvoir conservateur qui vient de mettre à la retraite d'office Malgorzata Gersdorf. À 12h45, quel sera le sommaire de la grande table d'été, Maïlys Bessery?
Eh bien, nous allons parler de la France des 60s à l'occasion de la sortie de nouvelles séries Speakerine et Au service de la France, juste avant de faire le portrait du réalisateur Quentin Dupieux dont le film Au poste sort aujourd'hui.
À tout à l'heure, Maïlys.
À tout à l'heure.
C'est l'un des grands chantiers de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, présente donc cet après-midi son plan biodiversité dans un lieu éminemment symbolique, la Grande Galerie de l'Évolution, au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. L'une des priorités de ce plan, c'est la lutte contre l'artificialisation des sols. Selon une définition officielle, un sol artificialisé est une terre qui supporte l'activité humaine en dehors de l'agriculture et de la sylviculture. Et cela concerne 9,3% du territoire français. Chiffre du ministère de l'Agriculture. Bonjour Véronique Robérotte.
Bonjour.
Cette artificialisation des sols ne cesse de gagner du terrain en France.
Oui, plus 0,8% de terre bétonnée chaque année depuis 2010, l'équivalent d'un terrain de football toutes les 5 minutes. Le grignotage des terres reste très soutenu en France. Il se fait pour les deux tiers au détriment des espaces agricoles pour laisser la place à des logements, des zones économiques et commerciales, des routes ou des réseaux de transport. Des zones qui, une fois bétonnées, deviennent à la fois imperméables, ce qui peut donner des crues et des inondations en cas de forte pluie, et deviennent aussi des déserts biologiques. Le plan biodiversité de Nicolas Hulot, qui considère que la gestion des sols doit être sobre et durable, consisterait au minimum à compenser les surfaces artificialisées en désartificialisant des surfaces équivalentes. Cette approche de compensation systématique consisterait par exemple à végétaliser des toitures, des trottoirs ou des parkings aussi en zone urbaine. L'État entend mieux aussi accompagner des élus qui s'opposent sur leur commune à des projets trop consommateurs d'espaces naturels. L'apogée des grandes surfaces démesurées derrière nous, affirme Nicolas Hulot. Pas tout à fait quand même. L'État vient de faire appel de l'annulation d'Europa City, gigantesque zone d'activité en projet tout près de Roissy dans le Val d'Oise. 80 hectares de terres agricoles menacées et un dossier retoqué par la justice car comportant d'importantes lacunes, notamment en matière d'environnement et d'émissions de gaz à effet de serre. Un projet qui doit évoluer, estime le ministre de l'écologie qui, en même temps, ne cache pas ses très vives réserves sur le projet.
Véronique Robérotte, merci. On retiendra aussi ce chiffre ambitieux dans le plan biodiversité du gouvernement. Nicolas Hulot vise 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa visite au Nigeria. Le président a passé la soirée d'hier au Shrine à Lagos, une salle de concert mythique fondée par Fela, l'icône de la musique nigériane, fondateur de l'Afrobeat. L'occasion pour le chef de l'État français de saluer, je cite, la vitalité de la culture africaine dont le Nigeria est une vitrine. Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron a un message à faire passer. Il faut donner une image positive de l'Afrique.
Oui, au cours de ce déplacement, Emmanuel Macron a tenté de prendre le contre-pied des très classiques voyages présidentiels en Afrique, les traditionnels échanges sur le co-développement et la sécurité, comme si seule la misère et le terrorisme valaient d'être discutés avec les chefs d'État africains. Alors évidemment, le storytelling et la communication ne sont pas oubliés. Emmanuel Macron hier soir Grégoire a rappelé qu'il avait fait son stage de l'ENA au Nigeria. Il a laissé entendre qu'il avait même lui-même fréquenté la salle de concert meeting du Shrine avant de saluer la créativité de Nollywood. Nollywood, c'est le surnom de la gigantesque industrie cinématographique au Nigeria. Le président français en a profité pour annoncer la saison culturelle 2020 en France qui sera consacrée aux cultures africaines. Même logique de message optimiste aujourd'hui au programme. Une rencontre avec de jeunes entrepreneurs nigérians. Objectif donné à voir l'Afrique qui réussit. Alors ce programme qu'on pourrait appeler celui de la diplomatie positive a le mérite de délaisser toute forme de condescendance. Il a aussi et surtout l'habileté de cadrer avec la stratégie française macroniste en Afrique, élargir son influence au-delà des partenaires traditionnels de la francophonie. C'était déjà le cas au mois de novembre dernier lors du déplacement au Ghana, à plus forte raison au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Il y a aussi l'idée subliminale d'encourager l'économie locale, les liens financiers pour freiner la fuite de la jeunesse en Europe. Outre les quelques pas de danse au Shrine devant les caméras, on est donc finalement pas si loin du voyage traditionnel et de la très classique ode au co-développement.
Frédéric Seyss, merci. Une trentaine de victimes ou proches de victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont saisi ce matin le tribunal administratif de Paris. Elles ont déposé un recours contre le ministère de l'Intérieur. Au cœur de ce recours, le fait que des soldats de l'opération Sentinelle présents aux abords du Bataclan au moment de l'attaque n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir contre le commando djihadiste. Les requérants estiment que la responsabilité du ministère de l'Intérieur est engagée. Les explications de Florence Turme.
Pourquoi les militaires de la force Sentinelle ne sont-ils pas intervenus au Bataclan? Pourquoi ont-ils refusé de prêter leurs fusils d'assaut aux policiers de la BAC, la brigade anticriminalité? Un questionnement mis en lumière par la commission d'enquête parlementaire diligentée après les attentats. Un brigadier-chef de la police y avait expliqué avoir demandé l'autorisation d'engager les militaires, mais reçu cette réponse de la préfecture de police de Paris. Négatif, on n'est pas en zone de guerre. Pour sa part, le gouverneur militaire de Paris avait rappelé le règlement interne qui interdit strictement aux soldats de confier leurs armes à quelqu'un d'autre. Ces explications officielles ont ouvert de nombreux débats, choqué plusieurs familles de victimes, celles-là même qui ont décidé d'engager ce recours devant le tribunal administratif. Elles sont une trentaine. Toutes les personnes concernées ne sont donc pas associées à cette démarche, qui soulève aussi d'autres questions. Ce que les plaignants qualifient de grave dysfonctionnement des services de renseignement, en particulier cet aller-retour entre la France et la Syrie de Sami Amimour, l'un des terroristes pourtant visé par une interdiction de sortie du territoire. Les familles requérantes réclament aujourd'hui chacune une indemnisation de 20 000 euros à l'État. Leurs avocats ont par ailleurs annoncé le mois dernier avoir déposé plainte contre X, au pénal cette fois, pour non-assistance à personne en péril.
Et le tribunal administratif de Paris rendra sa décision sur ce recours le 18 juillet prochain. Revenons à présent sur cette nuit de violences urbaines à Nantes, dans trois quartiers dits sensibles de la ville, Le Breil, les Dervalières et Malakoff. Plusieurs voitures incendiées, de même qu'un centre paramédical et des jeunes qui attaquent les forces de l'ordre à coups de cocktails Molotov. Une vague de violence provoquée par la mort d'un jeune homme de 22 ans, un délinquant recherché qui avait blessé un CRS avec sa voiture pour se soustraire à un contrôle. Un autre CRS a tiré sur le jeune homme qui a succombé à ses blessures dans la soirée à l'hôpital. Une double enquête a été ouverte par le SRPJ de Nantes et par l'inspection générale des services. On fait le point avec vous Stéphane Père.
Selon nos informations, la voiture du jeune homme était surveillée en raison de soupçons de trafic de stupéfiants dans ce quartier populaire du Breil dans l'agglomération nantaise. Donc lors du contrôle effectué par la police, le jeune homme aurait d'abord fourni une fausse identité. Et au moment où les policiers ont cherché à vérifier cette information, cet homme a enclenché la marche arrière en direction donc d'un CRS et d'un enfant, une fillette semble-t-il, qui circulait à bicyclette, nous explique une source syndicale CRS. L'un des policiers, on le sait, à l'avant de la voiture au moment du contrôle, a tiré un coup de feu et a donc tué ce jeune homme. Alors cette victime, originaire de Cergy-Pontoise, donc en région parisienne, était bien connu et même recherché par la police. Et il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par une juge d'instruction à Créteil pour vol en bande organisée, recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue d'un crime. Donc un casier plutôt chargé et un mandat de recherche à son encontre. On ne sait pas encore pourquoi il se trouvait dans ce quartier au moment des faits. Le procureur de Nantes doit s'exprimer aujourd'hui sur le sujet.
Stéphane Père et le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb condamnent, je cite, avec la plus grande fermeté les violences urbaines de Nantes. Il s'associe aux appels au calme lancés ce matin par les élus et responsables de l'agglomération nantaise. C'est peut-être un tournant dans la politique de promotion des minorités aux États-Unis. Jeff Sessions, le ministre de la Justice de Donald Trump, vient d'annuler une série de directives sur l'affirmative action, la discrimination positive en français. Ces directives concernent notamment l'incarcération des mineurs et les discriminations dans l'éducation. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Jeff Sessions a annulé ces règles car elles seraient selon lui inutiles, dépassées et incohérentes avec les lois existantes, ce que contestent bien sûr les défenseurs des droits civiques.
24 directives supprimées au total, mises en place pour la plupart lors de la présidence de Barack Obama, dont Donald Trump s'emploie à consciencieusement détruire l'héritage. Même si l'accès au logement ou l'incarcération des mineurs sont également concernés, les directives antidiscrimination dans l'éducation sont en effet dans le viseur. Un mécanisme emblématique qui entend, rappelons-le, promouvoir la diversité dans les universités en prenant en compte l'origine ethnique des étudiants. Plusieurs établissements ont toutefois annoncé qu'ils continueraient à intégrer la donnée raciale dans leur processus d'admission, Harvard notamment, afin, je cite, de créer un campus où les étudiants venant de tous les secteurs de la société ont l'opportunité d'apprendre ensemble et d'apprendre les uns des autres. Même si ces directives n'avaient pas force de loi, elles pouvaient être utilisées en justice par les établissements mis en cause pour leur ouverture à la diversité. Une directive de 2011 mettait ainsi en avant son intérêt pour les universités et pour tous les étudiants. Ils doivent être préparés, précise-t-elle, à réussir dans une société et un environnement de travail de plus en plus globaux, un environnement académique divers, aiguise leur sens critique et développe leur capacité d'analyse. Contesté plusieurs fois en justice, ce mécanisme qui a été promu pour la première fois par le président Kennedy en 1961, cela concernait alors l'embauche dans le secteur public, a été validé par la Cour suprême en 2016. Mais le juge Kennedy, qui soutenait la discrimination positive et qui avait rédigé un mémo en ce sens, a annoncé le mois dernier qu'il prendrait sa retraite. Il risque fort d'être remplacé par une personnalité plus en phase avec les vues de Donald Trump. Ce dernier fera connaître sa décision la semaine prochaine.
Marie-Pierre Véraud, merci. En Pologne, la présidente de la Cour suprême défie ouvertement le pouvoir conservateur. Hier, Malgorzata Gersdorf avait été mise à la retraite d'office par le gouvernement du PiS, et cela en application d'une loi controversée votée par la majorité conservatrice. Mais ce matin, la présidente déchue de la Cour suprême s'est rendue à son bureau, comme d'habitude, et elle a été accueillie, acclamée par plusieurs milliers de manifestants. Le reportage à Varsovie de Damien Simonard.
Entourée d'une marée de caméras et d'appareils photo, Małgorzata Gersdorf longe le bâtiment de la Cour suprême et avance au milieu d'une foule de plusieurs milliers de manifestants. Mise à la retraite depuis minuit, la présidente de la Cour est ovationnée par ses collègues juges à l'entrée du bâtiment.
Les valeurs et les principes de l'état de droit restent alors que les gens changent et ils peuvent commettre des erreurs. C'est pour ça que les valeurs inscrites dans la Constitution sont les plus importantes et qu'il faut nous battre pour elles.
Après la mise au pas du tribunal constitutionnel par le pouvoir, la Cour suprême semble le dernier rempart pour garantir la séparation des pouvoirs. C'est elle qui décide de la légalité des élections, qui interprète les textes de loi et qui a autorité sur les juges du pays. Vodimiej, 50 ans, espère encore stopper la réforme.
Puisqu'on a réussi à faire tomber le communisme qui avait un soutien bien plus puissant, notamment l'armée, alors maintenant que nous sommes libres, nous réussirons à défendre la démocratie.
Le bras de fer est engagé. L'opposition libérale compte désormais sur la Cour de justice de l'Union européenne pour faire pression sur la Pologne.
Damien Simonard, correspondant de RFI en Pologne. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'est défendu ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Il a affirmé que son pays avait le droit de construire son système judiciaire selon ses propres traditions. Fin de citation. Aux Pays-Bas, le leader populiste Geert Wilders a décidé d'organiser un concours de caricatures du prophète Mahomet et il a obtenu l'aval des autorités pour que les lauréats soient exposés dans l'enceinte du Parlement néerlandais. L'affaire a rapidement pris une dimension internationale avec des manifestations de protestation au Pakistan. On retrouve à La Haye notre correspondant Antoine Moutot.
Cela faisait déjà 2 mois que le leader d'extrême droite, Geert Wilders, avait annoncé son projet. Il y a peu, les autorités néerlandaises lui ont finalement donné leur feu vert pour exposer les caricatures de Mahomet reçues dans le cadre du concours. Pour le coordonnateur national de lutte contre le terrorisme, il n'y a aucun problème de sécurité. Les dessins seront visibles dans une salle du Parlement très surveillée à La Haye. Geert Wilders dit avoir déjà reçu près de 200 caricatures. En plus de l'exposition, il veut en faire publier une partie sous la forme d'une revue à la manière de Charlie Hebdo, a-t-il déclaré. Seulement voilà, au Pakistan notamment a été lancé un appel au boycott des Pays-Bas et des produits néerlandais. Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Sur certaines pancartes, on a pu voir des photos des frères Kouachi, auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Sous leur portrait, on pouvait lire « Il faut des frères Kouachi pour Wilders ».
Antoine Moutot, correspondant aux Pays-Bas. Un mot de la météo cet après-midi. 28 départements en vigilance orange à cause du risque d'orages violents. La zone concernée touche principalement le sud-ouest et le centre. Des orages qui déborderont en soirée vers Rhône-Alpes et la Bourgogne. C'est la fin de ce journal préparé avec Yacine Bouzard.